Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la première action de groupe contre les inégalités hommes-femmes dans une grande entreprise. Une plainte est déposée depuis ce matin contre la Caisse d'épargne Île-de-France. Les détails dans un instant. Le service public et ses agents à la peine. Trois signes dans l'actualité. Le personnel de nuit de l'hôpital Lariboisière en arrêt maladie. Une nouvelle façon d'alerter sur les cadences infernales. Les magistrats en souffrance au travail, c'est une enquête de leur syndicat. Et les cheminots appelés à manifester aujourd'hui, les promesses après la longue grève de l'année dernière n'ont pas été tenues, disent les syndicats unis. Autre raté du service public, celui-ci a peut-être arrangé beaucoup de monde, un bug sur le site des impôts, 48 heures de plus pour la déclaration. Question, l'afflux d'internautes liés à l'obligation de déclarer en ligne aurait-il été mal anticipé? En sport, la journée d'Emmanuel Macron avec les équipes de France de foot, déjeuner avec les filles à 3 jours de la Coupe du Monde, et cet après-midi, la Légion d'honneur remise aux garçons un an après leur victoire en Russie. Pour les Suisses, la journée est plutôt orange, terre battue. Stanislas Wawrinka parle du compatriote et de la légende Federer qu'il affronte tout à l'heure en quart de finale.
Un cauchemar à jouer, mais mis à part ça, le plus grand joueur de tous les temps. Je suis toujours aussi fan quand je vois gagner des tournois. C'est un plaisir et je pense que c'est une chance énorme pour le tennis qui joue encore.
Autre match à suivre tout à l'heure à Roland-Garros, Nadal face à Nishikori. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Et Météo France nous met en garde. Attention aux orages.
Oui, 18 départements en vigilance orange entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, la Meuse, Lyon. On attend des orages costauds, parfois de la grêle, de fortes rafales de vent. 26 à 31 degrés sur ces régions. Ensoleillé et plus chaud sur les régions du sud et de l'est avec 26 à 33 degrés. Et nouvelle vague orageuse pour le sud de l'Aquitaine ce soir.
On vous retrouve à 13h30 pour d'autres détails. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Pour l'égalité homme-femme en entreprise, puisque les mesures déjà en place ne suffisent pas, bien souvent, eh bien certains passent au stade attaque en justice. La toute première action de groupe, action collective, contre une grande entreprise a été déposée ce matin en France. Elle vise la Caisse d'épargne Île-de-France. Inégalité de salaire, de carrière, syndicats, salariés et avocats regroupés mettent en demeure l'entreprise de réparer les préjudices subis, Claire Chaudière.
Oui, à 9h25 précisément, la direction de la Caisse d'épargne Île-de-France a reçu très officiellement ce matin une mise en demeure. Et le risque financier dans ce type d'action de groupe, assez répandu aux États-Unis mais qui démarre seulement en France, est extrêmement dissuasif. En quelques mots, la Caisse d'épargne Île-de-France, c'est 19% d'écart salariaux en moyenne entre les femmes et les hommes, selon les chiffres brandis par ce collectif d'avocats, jusqu'à 5000 euros de différence de salaire par mois tout en haut de l'échelle, et un plafond de verre important. Témoignage d'Hélène, qui fait partie de ces femmes engagées dans cette action. Elle a de longues années d'entreprise derrière elle.
J'ai comparé, on a effectivement en moyenne 100 voire 200 euros d'écart par mois. Quand je demandais, on me disait, bah écoute, il n'y a rien cette année, pas pour toi. Moi je fais partie des femmes résignées. C'est-à-dire qu'à force de demander, c'était toujours non. Et ben, je me suis satisfait d'un non. Peut-être jusqu'à penser que ça venait de moi, le problème. En discutant avec d'autres femmes, on se rend compte que non. Et l'action aujourd'hui, elle est là justement pour reprendre confiance en soi.
Et obtenir réparation du préjudice, bien sûr, 2700 femmes potentiellement concernées dans cette entreprise. Alors l'action de groupe, dans son processus, laisse 6 mois à l'entreprise pour corriger elle-même les écarts avant une assignation en justice, si rien ne bouge. Une énorme avancée pour Maître Slim Benachour, qui défend ces femmes aux côtés de la CGT.
Pour nous, il s'agit d'une révolution. Ce problème va pouvoir être non seulement dénoncé, mais également traité par un juge qui se fera probablement aider par un tiers. Et bien évidemment, cela va avoir des conséquences. La fin de l'égalité sur papier glacé, le début de l'égalité effective réelle.
Voilà, syndicats et avocats soulignent que la Caisse d'épargne Île-de-France, groupe BPCE, n'est pas la seule, que c'est une entreprise dans la moyenne, entre guillemets, des discriminations. Mauvais élève, certes, mais loin d'être la pire.
Et d'autres dossiers sont en préparation, d'ailleurs, selon les avocats. Dans l'actualité économique, encore 2 chiffres. Le crédit immobilier n'a jamais été aussi favorable en France. Selon l'observatoire Crédit Logement CSA, 1,29% pour les taux d'intérêt en moyenne. L'agriculture biologique a connu une année 2018 record selon l'agence Bio. 10% des agriculteurs travaillent désormais en bio dans le pays. Plus de 20 millions de personnes passent chaque année dans les services d'urgence des hôpitaux français. La fréquentation a doublé en 20 ans et dans de plus en plus de services, le personnel ne parvient plus à suivre. Un mouvement de grève à bas bruit a commencé mi-mars. Il monte en puissance. Grève dans une 50aine de services, reconnaît le ministère de la Santé. Grève, c'est-à-dire le plus souvent un simple brassard, pas un arrêt de travail. Mais à l'hôpital Lariboisière cette nuit, un cran a été franchi. L'équipe de nuit s'est mise en arrêt maladie. Reportage France Inter devant Lariboisière ce matin. Sébastien Sabiron.
Urgence en souffrance, soignés sans se faire cogner. Sur les grilles de la Riboisière, des banderoles témoignent d'un mouvement de grève en cours depuis 2 mois. Jusqu'à la rupture, hier soir, avec ce mode d'action inédit. Céline Béradge, représentante Sud Santé à la Riboisière.
Ce qui s'est passé cette nuit, le fait que le personnel soignant soit en arrêt maladie de façon massive, c'est un signal fort de la situation catastrophique de ce qui se passe aux urgences et plus globalement dans tout l'hôpital. On a des équipes qui sont littéralement épuisées, on a une augmentation du burn-out. C'est pas normal qu'en France, les gens, ils arrivent aux hôpitaux, ils soient obligés d'attendre 6 heures pour voir un médecin parce qu'on n'a plus de médecin. C'est une situation qui devient ingérable.
10 arrêts maladie sur une équipe de 12 qui ont surpris jusqu'à la directrice du site. Eve Parier assure que la continuité des soins a été assurée.
Nous avons immédiatement procédé à un redéploiement, réaffecté des agents qui étaient dans le reste de l'hôpital vers les urgences autant que possible. Nous avons également demandé aux équipes de jour de prolonger leur présence le temps que nous arrivions à trouver des solutions. Et puis nous avons procédé à ce qu'on appelle un délestage, c'est-à-dire réorienter tous les patients qui pouvaient l'être vers d'autres services d'urgence de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc c'est évidemment pas habituel, c'est pas souhaitable que ça se prolonge, mais on sait faire, on sait gérer ces crises-là.
La direction assure qu'une 20aine de postes ont été réinjectés à la Riboisière ces dernières semaines, insuffisant visiblement aux yeux du personnel gréviste.
Invité de ce journal, Maxime Gauthier, bonjour monsieur.
Oui, bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de la Riboisière, vous étiez de service cette nuit, racontez-nous comment s'est passée la nuit. Est-ce que du coup il y avait une surcharge énorme de travail ou pas ?
Absolument, j'étais de garde cette nuit et l'activité a été parfaitement gérée. L'encadrement a tout de suite réagi pour mobiliser les infirmiers de terrain et les personnels soignants de l'après-midi ont été assignés pour rester à leur poste, c'est-à-dire qu'ils ont fait une double garde. Écoutez, il n'y a pas eu du tout de mise en danger de patients. L'activité a été plutôt calme parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un délestage, c'est-à-dire que les patients qui devaient arriver par les solutions de secours comme les pompiers ou le SAMU ont été redirigés vers d'autres hôpitaux qui ont été prévenus par les différentes régulations. Les professionnels qui étaient assignés par la direction ont travaillé dans le calme et ont été absolument professionnels et ont dû supporter donc cette charge de travail et l'ont très bien fait. Le message que je peux vous passer, moi, aujourd'hui, c'est que nous soutenons à 4000% le mouvement paramédical, qui est un mouvement absolument remarquable, duquel, d'ailleurs, certains médecins devraient peut-être s'inspirer, parce qu'ils ont structuré avec leur jeunesse, leur spontanéité, et en prenant beaucoup de temps sur leur vie personnelle pour défendre et alerter le gouvernement sur notre système de soins actuel.
Alors voilà, parce que c'était pas des médecins, hein, c'était des infirmiers ou des aides-soignants qui étaient en grève cette nuit. Pourquoi vous n'étiez-vous pas en grève si vous les soutenez à 4000%? Pourquoi? Ou en tout cas en arrêt maladie?
Alors c'est important que vous posiez cette question parce que c'est un message qui est difficile à comprendre de l'extérieur. Le mouvement de l'interurgence est né donc de l'hôpital Saint-Antoine et s'est ensuite structuré il y a maintenant un peu plus de 2 mois sur 5 services et aujourd'hui maintenant 80. Le mouvement d'origine est paramédical et ça a été une demande des équipes, c'est-à-dire de solliciter des revendications paramédicales propres pour pas que les médecins prennent le dessus avec leurs propres revendications ou prennent la parole un peu trop, puisque c'est souvent les médecins qu'on va appeler comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que je peux comprendre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en grève associée? C'est une bonne question. Moi, je me pose la question chaque jour de comment soutenir, comment œuvrer plus pour que le message passe et que le gouvernement soit un peu moins silencieux. C'est très difficile pour nous de comprendre comment on peut communiquer quand on est ministre de la Santé sur la grève des urgences et dire que le problème c'est pas les conditions de travail ou que c'est juste un problème de sécurité ou qu'il n'y a pas de solution miracle quand autant de gens de terrain qui sont vraiment en première ligne face aux patients vous font remonter cette souffrance. On partage tous, nous, en équipe, cette difficulté-là. Et encore une fois, leur mouvement est absolument remarquable.
Est-ce que on sent que vous êtes à la fois solidaire, que vous êtes finalement un peu ennuyé de pas être plus embarqué dans cette affaire? Ça pourrait passer. Il y a une ou deux journées importantes, là, 6 juin, 11 juin, peut-être que les médecins pourraient se mettre en grève également?
Absolument. Et je pense qu'il y a deux questions à se poser. C'est comment est-ce qu'on rentre dans le mouvement? Est-ce que la grève est une solution efficace quand on est juste assigné avec un brassard comme vous le rappeliez juste avant?
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut suffire pour faire bouger un gouvernement? Là, je peux constater, moi, en étant de garde cette nuit et en étant appelé par 15 journalistes différents ce matin, que finalement, leur action, certes, a pu perturber l'organisation du service. Il a fallu répondre de manière adaptée, en régulant, et donc ça peut créer en effet peut-être un désordre, mais encore une fois, la sécurité des patients a été assurée, et ça on peut vraiment en témoigner. Mais pour autant, ce mouvement-là génère un peu plus de visibilité, et il faut, je pense, inverser un petit peu le rapport de force aujourd'hui.
Merci Maxime Gauthier d'avoir répondu à nos questions, vous qui avez déjà travaillé toute la nuit. Bonnes heures de repos, j'imagine qu'il y en a quelques-unes quand même. Autres agents de service public, les magistrats, 750 d'entre eux ont répondu à une enquête du syndicat de la magistrature et un tiers se disent en souffrance au travail. Ils évoquent des journées de plus de 10 heures en moyenne, du boulot le week-end aussi, plus de contentieux, plus de plaintes, mais pas plus d'hommes ou femmes pour traiter les dossiers. On a entendu les témoignages hein, ce matin dans le journal de 8h, c'est sur franceinter.fr également, grâce à Corinne Audouin. Réponse dans ce journal du ministère de la Justice. Écoutez le porte-parole de la chancellerie, Youssef Bader. Pas question de se voiler la face, il reconnaît le problème, mais oui, les effectifs supplémentaires arrivent.
C'est un constat évidemment qui est largement partagé par la chancellerie, déjà pour une raison très simple, c'est que vous avez à la chancellerie un certain nombre de magistrats qui pour une grande majorité d'entre eux ont déjà exercé en juridiction et connaissent le métier de magistrat. Très très important, c'est la politique de recrutement. On a réduit quasiment de moitié le nombre de postes vacants. Aujourd'hui, on voit que les promos à l'École nationale de la magistrature tournent à plein régime. Celle qui sort en septembre, c'est de l'ordre de 350 magistrats. L'effort qui est fait aujourd'hui, il faut absolument le maintenir pour faire en sorte qu'un jour, les magistrats se rendent compte concrètement que là où ils étaient 8 dans un service, bah aujourd'hui ils sont 12, ils sont 13, et que ça a un impact. Ça va finir par changer. Moi, je suis convaincu que si on maintient l'effort dans les années à venir, ça changera.
Youssef Bader avec Corinne Audouin, et donc pour les témoignages de magistrats, vous pouvez réécouter l'interview de 6h20 ce matin sur franceinter.fr et trouver d'autres témoignages sur notre site. À propos de services publics, il y a des loupés qui arrangent bien les usagers parfois. Si vous êtes du genre à faire votre déclaration de revenus au dernier moment et que vous appartenez à la dernière zone, département 50 et plus, vous avez 48 heures de rab. La date limite, c'était en principe ce soir minuit, mais l'afflux de contribuables hier soir a fait bugger le site impôts.gouv.fr. Donc la nouvelle limite, c'est demain soir, c'est même jeudi minuit. Que s'est-il passé, Delphine Simon?
Bien vers 21h30, hier soir, plus de 3 millions de particuliers se sont connectés en moins d'une demi-heure après ce week-end ensoleillé. Beaucoup ont sans doute attendu le dernier moment. Du coup, le système informatique de la Direction Générale des Finances Publiques a cru devoir répondre à une attaque informatique, pas un bug stricto sensu, explique Daniel Baldaya, le directeur de la communication.
Le site n'est pas tombé, hein, puisque il n'y avait pas une page vide. Vous aviez accès à des options. Hein. Vous pouviez gérer votre prélèvement à la source, récupérer vos avis d'impôts. Donc, c'est une mesure de sécurité. Nous avons conscience de la gêne que cela a pu occasionner pendant quelques heures. Hein. On pourrait nous reprocher encore plus grandement ce qui s'est passé, notamment pour les piratages sur Facebook ou même Yahoo. Les services informatiques chez nous ont travaillé d'arrache-pied pour remettre très rapidement le service de nouveau en ligne, ce qui était le cas à 1h du matin.
Ce matin, il y a encore de nombreux appels dans les centres des impôts, des difficultés à se connecter, même si tout semble rentrer dans l'ordre. La DGFiP conseille donc de vider le cache ou de rafraîchir sa page d'ordinateur, voire de redémarrer son ordinateur. Si le problème persiste, signalez-le. Il reste 5 à 6 millions de foyers fiscaux à devoir renvoyer leur déclaration d'ici jeudi soir minuit, et ce sera sans aucune pénalité, promet le ministre des Comptes Publics.
Alors, il était prévisible qu'il y aurait plus de monde sur le site cette année, puisque la déclaration doit se faire obligatoirement en ligne. Y a-t-il eu un manque d'anticipation? Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat Solidaire Finances Publiques, n'est pas loin de le penser.
C'était tout de même assez prévisible. Le rapport de la Cour des comptes, qui date d'il y a un mois, a montré que, premièrement, les dépenses informatiques de la DGFiP ont baissé de 8% entre 2012 et 2017. Ce qui est contradictoire avec l'ambition numérique affichée par les gouvernements successifs. D'autre part, on a une proportion de dépenses qui est inférieure à 7% par rapport au budget global de la DGFiP, alors que dans la plupart des autres pays, c'est supérieur à 10%. Donc il y a objectivement un sous-dimensionnement. Et lorsqu'il y a un sous-dimensionnement et qu'on essaie de développer le prélèvement à la source, de maintenir les applications existantes, de développer le data mining en matière de contrôle fiscal, bien il y a un moment donné où on n'a pas eu les moyens de gérer.
DGFiP pour Direction Générale des Finances Publiques qui apporte cette réponse. Les serveurs ont pu faire face aux 7 millions de connexions du prélèvement à la source sans l'apocalypse qui avait été annoncé. Ce bug, selon la DGFiP, est un phénomène isolé. Après l'hôpital, après le palais de justice et le centre des impôts, la gare SNCF. Un an après la grande grève du printemps 2018, les quatre syndicats représentatifs unis appellent à nouveau à faire grève aujourd'hui. Dans les régions Hauts-de-France et Centre-Val de Loire, les conséquences se font sentir. Un TER sur deux dans la région de Lille, un sur cinq dans celle d'Orléans. Ailleurs, le programme est normal. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
C'est vous qui avez couvert l'année dernière pour France Inter cette longue grève. Ce que disent les syndicats, c'est que les promesses qui leur avaient été faites pour sortir de la grève n'ont pas été tenues.
Ouais, le gouvernement avait promis, par la voix d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, des garanties de haut niveau aux agents SNCF en cas de transfert vers un opérateur privé. Rien n'est écrit pour le moment. Pareil pour l'embauche des futurs cheminots de la SNCF. Malgré l'urgence, la suppression du statut au 1er janvier prochain, ça n'avance pas. Les négociations tripartites entre l'État, les syndicats, les entreprises de transport public sont au point mort. Les syndicats accusant le patronat de jouer la montre pour qu'au final, ce soit au gouvernement de trancher. En gros, donc, personne ne sait vraiment ce que sera la SNCF de demain, comment l'entreprise emploiera ses agents et en même temps, les guichets ferment comme une incitation de la direction à pousser les actuels cheminots à partir, déplore l'UNSA. D'autres sont transférés à des postes situés à 100-200 km de leur domicile, embraye Sudrail, avec à la clé des situations extrêmes, des burn-out, des dépressions, des arrêts maladie. Alerté récemment, le Premier ministre Édouard Philippe oublie de nous répondre, se désolent les syndicats. Rien de tout ça n'est réglo, dit l'un d'eux, qui espère un réel réveil général avec la manifestation d'aujourd'hui.
Oui, manifestation qui à Paris se tient en ce début d'après-midi entre la place d'Italie et Montparnasse. Merci Maxime Debs.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Trump en Grande-Bretagne, deuxième jour après la reine, la première ministre sur le départ. Il rencontre Theresa May, il lui promet un accord commercial très très substantiel après le Brexit. Là où Donald Trump passe, les manifestants anti-Trump ne sont pas loin. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Bruno.
C'est le cas à Londres, vous êtes pour France Inter. De quelle ampleur la manifestation anti-Trump ?
Alors ce n'est peut-être pas le rassemblement monstre de l'été dernier hein, où 100 000 Britanniques avaient défilé, on est un jour de semaine, il pleut, mais il y a du monde et de l'ambiance quand même dans une forêt bigarrée de pancartes et de drapeaux. Le cortège vient de s'élancer vers Whitehall, l'avenue qui concentre les institutions entre Trafalgar Square et le Parlement. Manifestation à l'appel d'organisations de gauche et anti-Brexit. Caroline est venue dire la peur que lui inspire le président américain.
Donald Trump est un homme dangereux, il veut surarmer l'Amérique, son attitude vis-à-vis de l'Iran est extrêmement dangereuse. Alors l'accueillir ici, voir notre reine, le divertir, ça coûte des millions. Ils sont là-bas, dans ce grand palais. C'est absolument horrible.
Donald Trump qui s'immisce dans la vie politique britannique, cela horripile les manifestants comme Linda.
Ça ne le regarde pas. Il n'a pas à se mêler de ce qui se passe ici. Il n'arrive même pas à diriger son pays. Nous ne l'aimons pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas un mot de lui. Rien.
Et en pleine commémoration du débarquement de 1944, certains comme Steve n'hésitent pas à faire le parallèle.
Ma grand-mère était anglaise, mais elle a vécu en Allemagne pendant la guerre. Elle m'a beaucoup parlé de la montée du nazisme et la façon dont ils s'y sont pris est très semblable à celle de Trump.
Alors les slogans hostiles n'atteindront sans doute pas les oreilles du président américain qui, depuis son arrivée, se déplace en hélicoptère. Autre sujet de raillerie ici parmi les manifestants.
Louise Baudet en direct de Londres avec Stéphane Beaufils, l'administration Trump, celle des déclarations choc. Mike Pompeo, le secrétaire d'État, rend hommage alors que ce sont les 30 ans des manifestations de la place Tiananmen. Il rend hommage aux héros du peuple chinois tombés dans la nuit du 3 au 4 juin 89. Réaction très vive à Pékin qui parle de vocifération démente et de bafouillage ridicule. L'Union européenne réclamait la libération immédiate des détenus de Tiananmen 30 ans après. C'est une chape de plomb que fait peser la Chine sur la célébration, entre guillemets, de cet anniversaire. En bref, les exportations d'armement français en hausse l'année dernière, plus 30%. Premier destinataire, le Qatar, la Belgique et l'Arabie Saoudite. Et puis en Espagne, la Cour suprême décide de suspendre pour l'instant l'exhumation de la dépouille de Franco. La politique en France, à droite, 9 jours après les européennes. L'habileté de Gérard Larcher peut-elle suffire à éviter l'implosion de son parti? Premier test ce soir, il rassemble presque tout le monde chez les Républicains à Paris pour engager une démarche avec les territoires et rassembler la droite et le centre. Un grand absent, Xavier Bertrand. La crise est moins flagrante, mais l'ambiance est morose aussi à la France insoumise depuis les européennes. Un peu plus de 6% des voix, loin des 19% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Depuis ces élections, une voix se fait entendre dans ce camp, c'est celle de Clémentine Autain. Elle avait appelé à cesser d'être clivant, à arrêter les discours de haine pour rassembler la gauche. Nouvelle démarche, aujourd'hui Laurence Perron, une tribune dans laquelle elle appelle à un Big Bang de la gauche.
Il y a un petit côté « attention la gauche », ici c'est la dernière station avant le désert. Où sont passés la colère sociale et l'esprit critique qui s'aiguisent depuis des mois, écrivent à quatre mains la députée insoumise Clémentine Autain et sa collègue communiste Elsa Fossillon. La gauche et l'écologie politique sont loin de pouvoir constituer une alternative, alors même que le pouvoir en place et la droite fascisante, disent-elles, dominent la scène politique dans un face-à-face menaçant. Le pire peut désormais arriver. Le texte appelle à un sursaut de la gauche autour des combats dits émancipateurs, l'écologie, le féminisme, l'antiracisme ou encore la promotion des services publics et la gratuité. Mais attention, et là c'est un coin enfoncé dans la ligne Mélenchon, on arrête avec le populisme, la stratégie de l'empilement des colères et l'illusion d'un nouveau front populaire. Non, il faut inventer autre chose. Quoi ? C'est à voir. La tribune a déjà recueilli plus d'un millier de signatures, dont celle de communistes, pour Génération celle de Guillaume Ballas, le lieutenant de Benoît Hamon, la comédienne Ariane Ascaride, l'écrivain Patrick Chamoiseau ou l'historienne Mathilde Larère. Jean-Luc Mélenchon, qui a prévu de s'exprimer après-demain, fourbit sans doute une réponse à la hauteur de ce Big Bang annoncé.
Et je vous parlais du parti Les Républicains. Le président par intérim Jean Leonetti, après la démission de Laurent Wauquiez, plaide pour une élection du nouveau président en septembre-octobre. Retour à présent sur une image qui nous a tous saisis il y a quelques jours. Cette toute petite fille née prématurée en Californie, 23 semaines, moins de 6 mois de grossesse pour la maman. Elle pesait 245 grammes à la naissance. Elle est sortie de l'hôpital après 5 mois de soins intensifs et à sa sortie, elle pesait 2,3 kg. Elle est en bonne santé. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Retour sur cette image et sur le traitement des prématurés avec vous dans la chronique santé cette semaine.
Oui, d'abord première question, est-ce qu'on peut parler de record puisque c'est effectivement comme ça que ça a été présenté. On doit parler de record quand on se pose la question des limites à la prise en charge de ces nouveau-nés. Alors quelques repères. En France, on ne prend pas en charge un bébé en deçà de 24 semaines. Alors, on ne dit pas de grossesse, on dit d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Quelques services vont jusqu'à 23. Ça veut dire des bébés autour de 400 grammes, hein, pas plus. Dans les équipes médicales, on se pose beaucoup de questions sur le devenir de ces enfants. Il y a parfois des conflits au sein même des équipes. Le professeur Valérie Biron est chef du service de réanimation de néonatologie de l'hôpital Robert Debré.
On est content qu'elle survive, mais après, quel va être son devenir, notamment cognitif, neurologique, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'enfants qui ont des paralysies motrices, mais de plus en plus de grands prématurés qui ont des troubles comportementaux, de concentration, des difficultés de langage ou d'autres problèmes neurodéveloppementaux qui ne vont se voir qu'à l'entrée à l'école. Alors c'est école maternelle ou un peu plus tard, 3 ans ou 6 ans. Donc ça, on n'a aucun recul sur cette petite fille.
Alors Daniel, pour un grand prématuré, il faut discuter parfois très vite de la suite après la naissance. On a peu de temps parfois, mais la décision se prend à plusieurs.
Oui, c'est une décision certes médicale qui fait intervenir l'obstétricien, le pédiatre, mais qui doit évidemment se mener avec les parents.
Il y a des parents qui expriment leur souhait d'une prise en charge maximum pour leur bébé. D'autres parents qui trouvent ça tout à fait déraisonnable et qui ne veulent pas de prise en charge de leur enfant, par exemple, à 24 semaines. Alors, il faut en effet trouver un point d'accord. Mais par contre, la prise en charge postnatale, si le pédiatre dit que c'est absolument déraisonnable, ça nous arrive de refuser d'aller jusqu'au massage cardiaque, par exemple, si on trouve que c'est déraisonnable pour la prise en charge de cet enfant. C'est toujours pour nous difficile parce que on n'a pas de marqueur, si vous voulez, prédictif. Bien sûr, il y a parfois des lésions cérébrales importantes. On peut dire aux parents qu'il y a un risque de handicap. C'est à considérer à chaque fois et chaque enfant est une histoire particulière.
Alors évidemment, personne ne sait aujourd'hui comment évoluera cette petite fille qui sera, j'imagine, très suivie. Si elle connaîtra des retards, on peut juste dire quand même que plus la prématurité est importante, plus il y a de risques. Mais chaque histoire est effectivement singulière.
Merci Daniel Messager. Messager Roland Garros, depuis des choses très sérieuses aujourd'hui, les quarts de finale, deux très belles affiches, Nadal Nishikori et Wawrinka Federer. Les matchs n'ont pas encore commencé, Fabrice Abgral est dans les starting blocks. En football, Emmanuel Macron respecte la parité aujourd'hui. Cet après-midi, il remet la Légion d'honneur aux joueurs de l'équipe de France, un an après leur victoire en Coupe du Monde. Pour les filles, la Coupe du Monde en France commence dans 3 jours. Et Jean-Pierre Blimeau, le président des jeunes avec les filles au centre d'entraînement de Clairefontaine, vous y êtes?
Il est arrivé un peu avant 13h. Il a été accueilli par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, mais aussi par la capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry, et bien sûr, la sélectionneur, Corinne Diacre. Alors, à l'heure où je vous parle, tout le monde est en train de déjeuner, mais juste avant de prendre la photo de famille et de monter les quelques marches qui séparaient l'esplanade devant le château de Clairefontaine et le réfectoire, Emmanuel Macron est venu parler à la presse. L'objectif d'aujourd'hui était clair.
Venir encourager, comme je l'avais fait pour notre équipe France de football masculine quelques jours avant le début de la compétition, notre équipe de football féminine, donc être à leur côté, motivée, mais j'ai le sentiment qu'elles n'en ont pas besoin, dire que toute la nation sera derrière cette équipe de football. Il faut avoir le bon schéma de jeu, avoir le bon collectif et jouer ensemble. C'est ça qui fait gagner. C'est savoir où on va et savoir jouer tous ensemble.
Alors le 5 juin 2018, Emmanuel Macron était déjà venu rendre visite aux joueurs de l'équipe de France, l'équipe masculine qui allait être championne du monde quelques semaines plus tard. En tout cas, il a promis aussi d'être présent avec son épouse au match d'ouverture de la Coupe du Monde vendredi soir au Parc des Princes.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Après la Coupe du Monde en France, les JO en 2024 et Total renonce à être partenaire de ces JO de Paris. C'est une information de Fabrice Rigobert. Les négociations étaient tendues avec Anne Hidalgo pour qui l'image de l'entreprise ne colle pas avec les jeux écolos qu'elle appelle de ses vœux. Le prix du livre Inter, dimanche, le verdict, on connaîtra le nom du gagnant ou de la gagnante le lendemain, lundi, et nous continuons à vous présenter les livres en lice. Aujourd'hui, Nino dans la nuit de Capucine et Simon Johannin. Le livre est publié chez Alia, roman à quatre mains, écrit par un jeune couple qui parle de sa génération entre fureur de vivre et précarité. Les auteurs avec Eva Bétan.
Eux, ce qui se passe dans leur tête, c'est qu'à un moment donné, ils vont conscientiser le fait d'être mis sur le côté, ils vont se l'approprier et choisir de prendre une direction qui est plus trouble et plus dangereuse. Il y a cette envie de liberté qui est aussi propre à leur âge et c'est une fureur de vivre en fait qui les travaille et c'est ça qu'on a voulu rendre et à ça qu'on a voulu rendre hommage aussi quoi. Dans le paysage de la littérature française d'aujourd'hui, on porte en littérature des gens qui sont peu représentés ou pas du tout représentés.
De quoi êtes-vous parti? Est-ce que vous êtes parti d'un monde autour de vous que vous connaissiez?
Oui, dans Nino dans la nuit, il n'y a pas énormément de choses qui sont vraiment inventées. C'est beaucoup de choses que des amis à nous ont pu vivre ou des gens qu'on connaît. On était à l'école avec des gens qui avaient le même niveau de vie que nous à peu près. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés dans une école d'art avec des gens très 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 aisés. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée parce qu'en fait, là, on s'aperçoit vraiment que l'égalité des chances, ça n'existe pas du tout. Et qu'il y a des gens, ils vont jamais se poser la question de payer un loyer, se nourrir, se soigner, tout ça. Et pour d'autres, c'est tellement plus dur. Et moi, j'avais des amis que je trouvais tellement méritants et brillants qui en fait avaient aucune chance et je les voyais s'abîmer, je les voyais pas avoir de quoi vivre correctement. Et ouais, on avait envie de parler de tout ça. Et je pense que des gens comme nous qui ont été aussi précaires et qui ont eu un parcours comme le nôtre, il y en a pas tellement dans la littérature aujourd'hui.
Nino a un père bienveillant, Lal a des parents qui sont profs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les enfants de la classe moyenne se retrouvent en galère avec des petits boulots?
On n'est pas des spécialistes, mais ce qu'on a vu autour de nous, c'est vraiment quand même une précarisation du mode du travail, une généralisation du travail non déclaré, du travail via des applications. On est complètement isolé, je pense aux livreurs de vélos, aux ramasseurs de trottinettes, etc. Donc qui sont payés au rendement et qui n'ont pas d'interlocuteur en fait. Il y a un isolement comme ça qui s'est créé, et puis une forme de paupérisation, mais surtout aussi de l'esprit. C'est une fiction en fait qui est en train de s'en aller, où on se dit plus qu'on va réussir par le travail, et surtout je pense qu'on... On a quand même vu des gens qui ont travaillé 40, 50 ans et qui sont pas du tout arrivés là où ils pensaient qu'ils auraient dû arriver et qui sont un petit peu fait avoir, en fait, d'une certaine manière.
Le livre s'appelle Nino dans la nuit. Il est édité chez Alia et vous pouvez en lire les premiers passages sur franceinter.fr.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Gare aux orages, Élodie Calac.
Du centre vers le bassin parisien, le nord de la Seine, l'ouest de la Lorraine et de la Bourgogne, c'est menaçant avec des orages, parfois forts avec de la grêle, de fortes rafales de vent. Les départements en vigilance orange sont les plus impactés. Ça se calmera en seconde partie de soirée. Une autre vague orageuse gagne le sud de l'Aquitaine en fin de journée. Elle se dirige vers la Haute-Garonne en soirée avant de remonter vers le Limousin. Entre l'Occitanie, la Méditerranée, le Massif central, Rhône-Alpes, l'Alsace, c'est plus calme, beaucoup de soleil, un risque d'orage seulement pour le sud des Alpes. Comptez 18 degrés à Brest, 21 à Cherbourg, La Rochelle, c'est trop chaud ailleurs, 26 degrés à Paris, Bordeaux, Ajaccio, 32 à Metz, Lyon et Montauban et 33 à Mulhouse, Clermont-Ferrand ou Grenoble.